Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dernière ligne droite avant les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis et changement de ton pour Donald Trump face à l'Arabie Saoudite après le meurtre de Jamal Khashoggi. Dans un autre dossier, la guerre au Yémen, la Maison-Blanche demande à Riyad d'arrêter ses bombardements contre les zones peuplées du Yémen.
Donald Trump mis à mal sur le plan intérieur par son silence face aux suprématistes blancs.
Manifestation contre le président américain hier alors qu'il était venu se recueillir à Pittsburgh dans la synagogue visée par une attaque terroriste ce week-end. À la une en France, l'État maintient ses efforts pour les sans-abri. Les associations, elles, doutent de l'efficacité du plan hiver dévoilé aujourd'hui par le gouvernement. Et puis à Lille, Jean-Luc Mélenchon tente de reprendre la main après deux semaines d'affaires politico-judiciaires.
Et puis la question du jour, dans une dizaine de minutes, Catherine, comment expliquer la pénurie de certains médicaments ? On posera la question à Dominique Martin, il est directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Hier donc, à Pittsburgh, manifestation contre Donald Trump. Plus de 1500 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer la venue de Donald Trump.
Je suis déçue, furieuse, que Donald Trump vienne ici. C'est un président raciste. Il dit des choses horribles sur les migrants et les réfugiés. Pas besoin qu'il vienne nous consoler.
À l'image donc de cette manifestante, plus de 1500 personnes ont dénoncé la venue de Donald Trump dans la synagogue de Pittsburgh, où un tireur a abattu 11 fidèles samedi, la pire attaque antisémite de l'histoire des États-Unis. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Catherine.
Trois jours après cette attaque, le président était donc venu se recueillir, mais avec ses positions pro-armes à feu et sa rhétorique violente dénoncée par ses opposants, l'accueil qui lui a été réservé, Loïc, n'a pas été franchement chaleureux.
Donald Trump n'était pas le bienvenu à Pittsburgh. 1500 personnes étaient là pour le lui rappeler. Les mensonges tuent, les mots comptent. Voilà quelques-uns des messages portés par les manifestants. Dans la synagogue Arbre de Vie, le président a allumé une bougie pour chacune des 11 victimes de cette tuerie. Il a déposé une pierre sur les étoiles dressées à l'extérieur, sa femme et plusieurs de ses proches à ses côtés. Le rabbin Jeffrey Myers, présent dans la synagogue au moment de la fusillade, avait accepté de rencontrer le président, mais pour le reste, Donald Trump était bien seul. Le maire de la ville, en effet, s'était mis en retrait. Les ténors du Congrès, y compris républicains, avaient eux refusé de se joindre à cette visite. « Vous n'êtes pas le bienvenu », lui a crié un manifestant, « tant que vous n'abandonnez pas le nationalisme blanc ». Depuis l'affaire des colis piégés, la rhétorique de Donald Trump est plus que jamais pointée du doigt. Le président est accusé, dans ses discours, d'entretenir la haine. À une semaine des élections de mi-mandat, il n'a pas fait de vague et conservé quelques heures durant un ton présidentiel. Il reprendra toutefois dès aujourd'hui la route des meetings, une dizaine au total d'ici les mi-termes le 6 novembre. Et sauf surprise, il devrait remettre ses habits de Donald Trump.
Avec la lutte contre l'immigration qui lui colle à la peau, à une semaine donc de ces élections législatives cruciales, Donald Trump affirme vouloir mettre fin par décret au droit du sol pour empêcher que les enfants nés aux États-Unis de parents clandestins ne bénéficient plus de la nationalité américaine, Loïc.
Oui, et ce serait sa pire attaque contre les migrants. Cette citoyenneté automatique, en effet, concerne chaque année des centaines de milliers d'enfants à naître. Donald Trump souhaite envoyer valser cet aspect du 14e amendement, et cela sans même passer par le Congrès. Un tel texte serait synonyme de bataille juridique, sans aucun doute, mais à terme, eh bien, l'affaire pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême, où les conservateurs ont la main depuis la nomination du juge Kavanaugh. En attendant, la question migratoire est surtout un repoussoir pour Donald Trump avant les mi-termes, un cri de ralliement pour ses supporters. Depuis deux semaines, le président multiplie à ce sujet les saillies et les mensonges, notamment sur la caravane venue du Honduras. Il évoque des criminels, des inconnus du Moyen-Orient. Donald Trump, par ailleurs, n'en est pas à son coup d'essai. La semaine dernière, il annonçait un décret pour tout simplement fermer la frontière sud aux migrants, leur rendre impossible toute demande d'asile. On ajoute enfin à cela l'envoi de 5200 soldats de plus sur cette même frontière mexicaine. Le message est limpide, les migrants ne sont pas les bienvenus aux États-Unis. Un hameçon électoral en somme qui devrait plaire aux plus droitiers des républicains.
Loïc Loury aux États-Unis pour France Culture. Et dans la dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat, alors que Donald Trump est sous pression du Congrès pour prendre ses distances avec l'Arabie Saoudite après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, la Maison-Blanche appelle à la fin au Yémen des frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Un ton ferme Washington réclame l'ouverture de négociations de paix d'ici 30 jours, mais estime toujours que le premier pas doit être fait par les rebelles houthis, soutenus eux par l'Iran chiite, bête noire commune des États-Unis et de leurs alliés sunnites saoudiens. Hier en France, la ministre des Armées, Florence Parly, a estimé que cette guerre menée au Yémen par l'Arabie saoudite était sans issue et qu'il était plus que temps qu'elle cesse, une guerre qui a fait plus de 10 000 morts. Un attentat suicide tôt ce matin à Kaboul, au moins 7 morts et 5 blessés, un terroriste a visé un bus transportant des fonctionnaires tout près de la principale prison de la capitale afghane. De violents affrontements hier en Syrie dans ce qui doit être pourtant une zone démilitarisée dans la province d'Alep dans le nord-ouest du pays. Le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, dominé par l'ex-branche d'Al-Qaïda, combat une coalition de groupes rebelles actuellement, au moins 13 morts en 24 heures. De son côté, la Turquie dit vouloir détruire toutes les forces terroristes kurdes qui se trouvent dans le nord de la Syrie. Et depuis dimanche, l'armée turque pilonne des positions des YPG près de Kobané, ces combattants kurdes soutenus par les États-Unis pour combattre le groupe État islamique. Reste à savoir si ces nouvelles menaces annoncent vraiment une nouvelle opération d'ampleur ou s'il s'agit plutôt d'un message envoyé aux partenaires occidentaux et russes de la Turquie en Syrie. Alexandre Billette.
Il y a eu l'opération Bouclier de l'Euphrate au nord d'Alep, il y a eu l'opération Rameau d'Olivier dans l'enclave d'Afrine. Désormais, Recep Tayyip Erdogan laisse entendre qu'il y aura une autre opération à l'est du fleuve Euphrate contre les forces kurdes DYPG, considérées par Ankara comme une structure terroriste. Depuis dimanche, l'armée turque a en effet frappé des positions kurdes entre la ville de Kobané et le fleuve. Et le président turc annonce pour bientôt des interventions plus importantes sur la dernière zone frontalière de la Turquie qui est toujours sous contrôle des forces kurdes. Ce n'est pas la première fois qu'Ankara menace de libérer, selon des termes officiels, la région sous contrôle des unités de protection du peuple kurde. Mais il y a un mais, et l'un des verrous de cette zone, c'est la ville de Manbij, sous contrôle des YPG, mais avec toujours une présence militaire américaine. Ankara et Washington avaient finalement négocié une feuille de route pour éviter la confrontation entre les deux alliés de l'OTAN. Aujourd'hui, la Turquie revient à la charge et sous-entend que Manbij pourrait faire partie de la prochaine offensive. Mais quelques jours après le sommet d'Istanbul qui réunissait Turcs, Français, Allemands et Russes sur le dossier syrien, cette annonce d'Ankara pourrait bien n'être qu'une mise en garde turque en quelque sorte. Une façon de rappeler à ses partenaires que la Turquie peut toujours utiliser sa force de frappe dans le nord de la Syrie.
Alexandre Billette à Istanbul pour France Culture. Et puis, un nouvel émissaire des Nations Unies pour la Syrie, le diplomate norvégien Geir Pedersen, devrait remplacer Staffan de Mistura qui quitte ses fonctions fin novembre. Trois jours après la victoire de Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle au Brésil, le futur gouvernement d'extrême droite se dessine peu à peu, avec notamment la fusion annoncée hier des portefeuilles de l'agriculture et de l'environnement, immédiatement critiqués par des associations écologistes. L'opposition, elle, descend dans la rue. Première grande manifestation hier soir à Sao Paulo, capitale économique du Brésil. Et parmi les manifestants de gauche, Rafael estime que le parti des travailleurs perdants de la présidentielle doit aujourd'hui se renouveler et que les forces de gauche doivent se rassembler.
On l'a vu lors de la campagne, le Parti des travailleurs est resté constant, il a maintenu sa vision progressiste. C'est sûr, ce parti va jouer un rôle important dans l'opposition au gouvernement. Mais il faut bien noter qu'il y a une grande réorganisation de la gauche au Brésil. Il faut aussi regarder en dehors du PT, par exemple du côté de l'extrême gauche, qui a fait un score petit mais significatif à cette élection. En tout cas, il est urgent que la gauche brésilienne se renouvelle. C'est bien parce qu'elle ne l'a pas fait ces dernières années que Bolsonaro est arrivé au pouvoir.
Bolsonaro canalisasse o sentimento de mudança, de insatisfação e não uma alternativa de esquerda.
Raphaël, manifestant de gauche hier à Sao Paulo, au micro de Sandrine Etoandeg, envoyé spécial donc au Brésil pour France Culture avec Fabien Gosset à la technique.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Pour faire face à la chute des températures, le gouvernement annonce l'ouverture de 14 000 places supplémentaires pour l'hébergement des sans-abri.
Elles s'ajouteront aux 136 000 places déjà ouvertes à l'année, c'est ce qu'annonce le ministre de la Ville et du Logement, Julien de Normandie, dans un entretien aux Parisiens. Alors que que le plan hiver 2018-2019 est lancé donc aujourd'hui, avec un effort financier de l'État, 26 millions d'euros pour l'hébergement, 5 millions pour le budget des maraudes. Des chiffres qui pourtant laissent sceptique le directeur général d'Emmaüs Solidarité, Bruno Morel.
Il faut impérativement qu'on arrête d'année en année, et quels que soient les gouvernements, d'avoir une gestion au thermomètre. On aborde le sujet en fonction de considérations climatiques ou de réponses à la presse sur l'actualité. En même temps que l'annonce de ces 26 millions d'euros, on vient de subir une perte sur les dispositifs des centres d'hébergement et de réinsertion sociale de 20 millions d'euros. Donc il faut voir comment tout ça va s'équilibrer. Une fois encore, soyons vigilants sur les moyens qui seront affectés et sur le fait que ce ne soit pas une simple mise à l'abri. Après, la question se posera, c'est la pérennisation des places. Il y a des places qui vont être créées. Qu'est-ce qui va se passer le 31 mars? Il n'y aurait rien de pire que de remettre les personnes à la rue à l'arrivée du printemps. Donc, notamment par l'accompagnement social, on va pouvoir travailler sur la recherche de solutions plus pérennes pour les personnes.
Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs Solidarité, il répondait à Steven Goyer. Député de la France Insoumise, Alexis Corbière, juge infamant un article du Canard Enchaîné qui explique comment lui et Raquel Garrido ont bénéficié cette année d'une aide financière pour des travaux au titre de ménages très modestes. Le Canard Enchaîné admet la légalité de la démarche et lui dénonce toujours la persécution dont il aurait été victime. Meeting d'une heure et demie hier soir à Lille de Jean-Luc Mélenchon pour reprendre la main après deux semaines de péripéties politico-judiciaires, Élodie Fauré.
Prêt à porter le fer, Jean-Luc Mélenchon avait le regard sombre hier soir en entrant sur scène.
Vous imaginez tout ce que votre accueil m'apporte après ces 15 jours passés sous l'outrage et l'offense permanente.
Mais le tribun de la France Insoumise retrouve vite le ton volubile et professoral de ses meetings de campagne, promet de régler ses comptes avec des bulletins de vote et multiplie les punchlines anti-Macron.
C'est un petit garçon, parce que quand Madame Merkel fait les gros yeux, eh ben il n'a pas le courage que j'ai moi devant certaines portes.
1h30 d'aller-retour entre les sujets de fond, la fraude fiscale notamment, et l'évocation des deux dernières semaines. Le leader de la France Insoumise qui galvanise ses supporters, prêt à tout lui pardonner, y compris sa réaction face aux perquisitions.
Moi, si on rentrait comme ça alors que j'ai rien à me reprocher, faudrait déjà qu'on me dise ce qu'on me reproche, sinon je pense que je me mettrais à gueuler.
Des militants qui souhaitent désormais parler du programme de la France Insoumise pour les européennes, tandis que leur leader lui conclut à sa manière sur les révélations des dernières semaines sur sa vie privée.
Quelle femme j'aime ? Nul n'a le droit de s'en informer. La loi, moins que personne.
Jean-Luc Mélenchon regonflé. Une heure avec vous, termine-t-il. Je n'arrive plus à m'arrêter.
Le temps de ce mercredi 31 octobre, marqué par les pluies et les orages, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère sont placés en vigilance orange pour orages et pluies, tout comme le Var qui est également placé en vigilance orange pour une forte crue. 45 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin en France. Après les fortes chutes de neige et de pluie dans de nombreux départements ces derniers jours, des gelées attendues ce matin dans le nord-est, le massif central et sur les collines normandes. Au meilleur de la journée, il fera entre 9 et 15 degrés en général, jusqu'à 19 près de la Méditerranée, Guillaume Hermer.
Merci Catherine Dutu, 7h13.